Et bonjour et bienvenue, voilà, on est bien là. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio, de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et on est ravis, bien sûr, de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h à 18h. Voilà, juste avant d'annoncer le sommaire, on rappellera comment nous suivre, eh bien, la bande FM, le 411.3. Là, je fais un petit clin d'œil à notre invité du jour. Et oui, Eau de Radio est né, a commencé à émettre le 10 juillet 1997. On était à Lormont, dans le quartier Carrier, rue Louis Bates, donc la bande FM, voilà, depuis cette époque-là, 411.3, dans quasiment tout le département de la Gironde. Vous pouvez également nous suivre via notre site internet eudoradio.fr qui, comme tout site, eh bien, vous permet d'avoir plein d'infos sur la vie de la radio, et surtout, ça c'est un service qui est très utilisé, pouvoir venir réentendre, voir télécharger toutes nos émissions, et j'insiste là-dessus, c'est un service gratuit, donc dans votre communication, dans vos plans médias, n'hésitez pas quand vous êtes venu à Eudoradio, ou s'il y a des invités voilà, dont la motivation vous interpelle, vous pouvez partager, bien sûr. Voilà, donc eudoradio.fr est troisième moyen de nous suivre si vous êtes en métropole bordelaise uniquement équipé d'un poste récepteur de radio numérique. Eh bien, vous pouvez nous suivre par ce biais-là, le fameux DAB ou DAB+. Là, vous prononcez, voilà, on me disait qu'il y avait une prononciation, mais non, c'est un acronyme anglais qui plus est, et vous le prononcez comme vous voulez, et c'est le troisième moyen de nous suivre. Allez, tout de suite, le sommaire de ce journal en ce mardi 29 juillet. Voilà, c'est Romain qui va présenter quelques bras d'infos, et c'est aussi Romain qui va recevoir aujourd'hui, bravo pour tout ce travail, je le remercie en amont bien sûr, et il va pouvoir s'entretenir avec Patrice Thébault qui est directeur sportif du club de Lormont de football, l'US Lormont. Pour la partie musicale, eh bien, un petit clin d'œil une fois de plus à Lormont avec Clara Daly qui va se produire le dimanche 7 septembre. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le festival Ouvre la Voie, pourtant il est bien ancré sur le pays Rive Droitier et pas que, voilà, autour de la piste Roger et la Pébi, et ce week-end des 6 et 7 septembre, il y aura plein d'événements, et pour Lormont, eh bien, ça se déroulera à la station bateau, berge de Garonne, à 10h15, donc avec un concert gratuit de Clara Daly. Donc on ne va pas hésiter justement aujourd'hui à vous faire découvrir ou redécouvrir, c'est selon bien sûr, et que ce soit juste avant ou peut-être après, je vais aviser un petit agenda culturel pour vous parler de tous les événements de l'été, avec toujours des animations dans le cadre des dispositifs initiés par le conseil départemental. Je parlais de Cap 33 et je crois que toutes les villes, quasiment la rive droite, eh bien, ont adopté ce système. Ça permet aux habitants d'avoir des initiations, pas que sportives, mais beaucoup sportives, et ce de manière gratuite. Donc voilà, ce sont de bonnes idées d'animation, et là j'essaierai de vous distiller tout cela au mieux tout à l'heure. Mais pour ouvrir ce journal tout de suite en ce mardi 29 juillet, c'est donc Romain qui vient nous décliner quelques brèves infos. Bonjour Romain.
Bonjour Joël et bonjour à toutes et à tous. À Sainte-Eulalie, le conseil municipal s'est réuni la semaine dernière en plein été avec un ordre du jour bien rempli, centré sur l'amélioration du quotidien de ses habitants. Plusieurs mesures ont donc été adoptées, notamment la modification des horaires de cantine pour les enfants en maternelle afin de mieux respecter le rythme de leur journée. Des achats de matériel scolaire ont également été validés en prévision de la rentrée. Et autre décision marquante, l'acquisition d'équipements pour le club de football, mais aussi la signature d'une convention pour recruter des AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Enfin, la commune prévoit aussi de passer à l'énergie solaire avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments et parkings municipaux. Toujours dans la politique, mais à l'échelle nationale, la pétition lancée par une étudiante bordelaise pour demander l'abrogation de la loi Duplomb a maintenant dépassé les 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Cette pétition, soutenue par plusieurs syndicats, scientifiques, politiques, de gauche et citoyens, s'oppose à la loi Duplomb, adoptée début juillet par le Parlement, qui prévoit l'autorisation d'un pesticide nocif pour la santé, jusqu'ici interdit en France mais encore utilisé dans d'autres pays européens. Les mobilisés espèrent maintenant que le Conseil constitutionnel prendra la décision de rejeter ce texte. Pour finir, l'association L'Appel des Sangs pour la Paix organise sa commémoration annuelle en mémoire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki survenus les 6 et 9 août 1945. Pour rappel, deux dates tragiques marquées par le largage de bombes nucléaires par l'aviation états-unienne qui ont fait des centaines de milliers de victimes civiles. À travers leur événement composé de spectacles, débats et temps de réflexion, l'association rappelle l'urgence de la paix et du désarmement, qu'il soit nucléaire ou non. Le rendez-vous nous est fixé le mercredi 6 août, donc à partir de 17h, rue des 40 Journaux à Bordeaux-Lac. L'entrée est libre et ouverte à tous. Donc maintenant, on accueille Patrice Thébault ici à O2 Radio. Patrice, donc on va parler de l'US Lormont, très bon club de football du département et même de la région. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste votre poste de directeur sportif au sein du club ?
Alors en tout, j'occupe ce poste-là depuis 6 ans. L'objectif, c'était de mettre un cadre au niveau du club, un cadre de fonctionnement, un projet éducatif, parce qu'on pense toujours qu'on fait que du foot, mais le projet éducatif est bien présent dans tout ce qui est la préformation au niveau des jeunes. On a un projet aussi dans le cadre du PEF qui est très bien fait, le programme éducatif fédéral, où on s'appuie énormément dessus, notamment aussi pour tout ce qui est éducation au niveau des jeunes. Mais avant tout, mon rôle, oui, c'est d'être sur le terrain le plus souvent possible, et je sais que j'y suis, et de venir voir ce qui se passe. Donc il y a toujours des choses à rectifier, d'accompagner tous les éducateurs qui sont maintenant relativement tous formés, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans quand je suis arrivé. Donc ça a été la première chose à faire, de former tous nos éducateurs, de façon à ce qu'ils soient formés, mais en fonction, en adéquation avec le groupe qu'ils ont dans les mains. Et mon rôle, c'est de les accompagner, de corriger quand il le faut, d'apporter des solutions par rapport au diplôme que j'ai, parce que j'ai un DES et un brevet d'État deuxième degré. Donc ça me permet quand même d'avoir une certaine connaissance du football. Donc voilà mon rôle en premier, c'est d'être présent sur le terrain et d'intervenir quand c'est nécessaire et si c'est nécessaire sur le sportif.
Et alors justement, sur le terrain, est-ce que vous pouvez revenir en détail, nous faire un petit tableau de cette saison qui a été, je crois, assez bénéfique quand même pour le club?
Oui, alors non, on a vécu il y a un an donc une descente en R2 au niveau des seniors, alors que l'équipe de l'US Lormont est une équipe de Régional 1 avant tout, voire de National 3, avec la formation de très très bons joueurs qui sont devenus professionnels dans les années précédentes. Et donc là, l'équipe première a fait un parcours remarquable, puisque sportivement, on est premier quand même de R2, même si une affaire est en cours actuellement, plus sur le juridique. Mais au niveau des jeunes, donc, il y a toujours du travail, mais nos jeunes sont quand même tous en ligue, et ça c'est important. On travaille depuis quelques années, parce qu'avant on végétait un petit peu sur du district. Donc la préformation commence à être intéressante, puisque nos équipes de jeunes 13, 14, 15, 17, 18 sont en ligue. Et ça, c'est un travail remarquable qui est fait par nos éducateurs et qui est aussi très important pour la suite et l'avenir du club. Parce qu'on veut s'appuyer avant tout, nous, sur la génération de nos jeunes qu'on forme pour pouvoir les propulser vers les équipes seniors.
Et comment, justement, vous pouvez nous expliquer cet élan? Vous avez dit monter de l'équipe A en Régional 1, maintien de la B en Régional 3, les U17 en Ligue, et aussi j'avais noté les U14 en demi-finale de Coupe de Gironde, c'est des belles performances. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cet élan, cette progression du club, en prenant quand même des pincettes, parce que c'est un club qui a toujours été performant quand
tout
même.
Tout à fait, oui, c'est un club qui a toujours été performant, mais c'est vrai que depuis quelques années, nous avons tout réaxé sur la préformation, et je pense que là ça commence. On sait très bien que la préformation, c'est long, il faut être patient. Et là, on commence à voir les fruits du travail de tous nos éducateurs diplômés dans toute catégorie, parce que ça commence aussi par l'école de foot. Et on voit que là, l'école de foot commence à être intéressante, nos U11, nos U13. Donc, c'est vraiment un travail en amont, mais qui dure depuis 4-5 ans. Et notre objectif n'est pas encore atteint, parce qu'on voudrait avoir que toutes nos équipes de jeunes soient toutes en Régional 1. Ce qui serait vraiment à l'image du club de Lormont, avec une équipe première, pourquoi pas, qui pourrait accéder un jour ou l'autre en National 3.
Et bon, sans parler de l'affaire qui doit un peu vous épuiser avec la fédération, parce qu'on préfère parler du terrain et foot ici. Quels sont vos objectifs sportifs pour la saison prochaine, notamment avec l'équipe A, du coup, en Régional 1, mais aussi les autres sections?
Alors pour l'équipe 1, en espérant que nous serons en Régional 1, si c'est le cas, ben, pour nous c'est le maintien, parce qu'on revient sur un championnat très relevé avec de très très bonnes équipes. Donc on va rester humble, et l'objectif avant tout, c'est le maintien, mais l'appétit vient toujours en mangeant. Après, si nous sommes malheureusement en R2, l'objectif, c'est la montée obligatoire, où il faut qu'on retrouve ce niveau qui est le niveau de l'Essormont par rapport à l'exigence qu'on met sur nos jeunes, où l'équipe première doit être minimum R1 ou National 3 par rapport à ce qu'on fait comme travail au niveau des jeunes, et pour pouvoir aussi attirer de nouveaux jeunes pour venir sur ce sportif que sont les seniors. Après, notre équipe 2 senior, depuis 2-3 ans, rencontre des difficultés. Là, je pense qu'on a trouvé une certaine stabilité, notamment sur la fin de championnat. Et je pense qu'on risque de redémarrer sur une dynamique très positive. Et le souhait de notre nouveau président, ce serait que si notre première est en R1, de pouvoir jouer les premiers rôles avec la R3 pour pourquoi pas un jour accéder à la R2.
Et toujours sans évoquer les cas juridiques, vous la préparez comment la saison prochaine ?
Écoutez, ça se passe très bien, puisque je suis passé sur la séance hier soir avec les 24 joueurs de l'équipe première. Donc ils sont tous présents, tous très motivés. Il n'y a pas de déstabilisation, c'est ce qu'on craignait nous avec l'encadrement technique de l'équipe première. Certaines déstabilisations, sachant qu'ils ne savent toujours pas s'ils sont R1 ou R2. Mais non, on travaille nous dans l'optique d'être en R1, avec une préparation de R1. Et pour être prêt dès le 21 août, puisque la première journée de championnat de R1, c'est le 21 août. Donc on fait tout pour être prêt pour le 21 août.
Et on va parler aussi des jeunes, parce que vous nous avez dit que c'est un axe de développement important pour le club. Comment vous contribuez justement à ce développement des sections jeunes ?
Écoutez, on a mis des réunions techniques, ce qui n'existait pas avant. Depuis quelques années, là, on a instauré des réunions techniques. Donc, il y a 4-5 réunions techniques. On reçoit tous les éducateurs en fonction des catégories, donc foot à 11, foot à 8 et l'école de foot. Et on travaille aussi sur un projet de jeu, ce qui n'avait jamais été fait encore à Lormont. Donc, on a vraiment instauré un projet de jeu sur le foot à 11 jeunes, c'est-à-dire des U14 au U18, où ils jouent tous sur le même système de jeu. Après, l'animation reste bien sûr dans le rôle de l'entraîneur qui est diplômé, mais on veut vraiment mettre un style de jeu au niveau de nos jeunes. Donc là, on commence à avoir des choses intéressantes depuis un an. Donc on espère que cette année, ça va encore prendre de l'ampleur. Mais c'est vrai que les systèmes où c'est intéressant, c'est que dès que vous venez voir une équipe, soit du 14, ou du 16, ou du 17, ou du 18, on sait qu'ils vont jouer dans le même système de jeu. Après, l'animation RS, je vous dis, par rapport au groupe. Mais ça, c'est important de redonner un système de jeu et au niveau des jeunes, parce qu'on est, je rappelle, sur la préformation et la formation. Il faut leur donner des bases. Voilà. Il ne faut pas que chaque éducateur travaille de son côté avec un système qu'il a vu plus ou moins à la télé. Non, le projet de jeu est très, très important au niveau des jeunes. Et c'est ce qu'on a mis en place depuis un an à l'école de foot. On a commencé aussi à mettre un projet de jeu au niveau de l'école de foot, et c'est ce qui va nous permettre d'être très performants dans quelques années.
C'est une chose que je ne connaissais absolument pas. C'est vrai que ça peut être déstabilisant pour un jeune à chaque fois de monter en âge et en section, et de changer de tactique, de passer à 4, à 3. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment un projet de jeu. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler un peu sans dévoiler toutes les tactiques?
Oui, après, on leur a laissé quand même la possibilité de jouer soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. Ouais. Donc c'est des systèmes qui sont relativement... qu'on retrouve généralement dans les centres de formation, parce que moi je sors d'un recyclage à Clairefontaine où j'étais avec tous les centres de formation de Ligue 1 et de Ligue 2, et ils sont sur ce système là. Après, bon, dès qu'on arrive en 18, on peut évoluer différemment, mais le 4-4-2 et le 4-3-3, c'est le système de base, avec, comme je vous ai dit, une animation spécifique à chaque entraîneur. Voilà. Et l'animation, généralement, je la connais à partir de la rentrée, comment ils font quand ils perdent le ballon, ce qu'ils ont à faire, les joueurs, et quand ils n'ont pas le ballon, ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est la donnée importante et indispensable pour un joueur de foot.
Et aussi, il y a une nouvelle un peu malheureuse pour les jeunes, c'est la fin du passeport en juin. Oui. Est-ce que ça a impacté la reprise des licences dans le club ou pas ?
Ah oui, au niveau du club de Lormont, nous, au niveau des chiffres, l'année dernière, c'était 6 000 € de passeport. Donc ça concernait à peu près une bonne centaine d'enfants. Mais de U6 jusqu'au U16, U17. Et là où on avait le plus de passeports, c'était sur les petits, des U7 jusqu'à U13, où là, beaucoup de parents avaient ce passeport qui était de 50 €, qui n'était pas si élevé que ça, mais qui a un impact très, très positif pour les parents. Et là, malheureusement, on le voit. Donc, nous, on arrive à échelonner les paiements de licence. C'est pour ça qu'on ouvre très tôt notre secrétariat début juin pour permettre aux parents de payer en 4, 5, 6 mois si c'est nécessaire. Parce qu'on sait que c'est très difficile pour payer une licence maintenant. Mais nous, il y a un impact très, très négatif malheureusement sur les parents. Ouais.
Donc il y a beaucoup moins de signatures. Je ne sais pas si vous pouvez le quantifier.
Oui. Ben là, on est à 200 signatures sur 500 licenciés. D'accord. Donc, mais encore une fois, bon, je pense que certains clubs le font comme leur monde. On ouvre très tôt notre secrétariat pour essayer de permettre aux parents qui sont en difficulté de payer en 5-6 fois, ce qui est quand même plus facile. Mais c'est vrai que sans avoir ce bon de 50 euros, parce que maintenant il est passé à 70 euros, mais uniquement pour les enfants de 14 à 17 ans, je crois. Mais à ce niveau-là, sur les autres années ou précédentes, on avait très peu de passeports. Donc on cible une catégorie où il y a très peu de passeports. Donc beaucoup de clubs et beaucoup de sports, malheureusement, sont impactés. Parce qu'il n'y a pas que le football. Hein. C'est ça qui est dommage. Hein.
Oui. On a vu une petite publication avec Joël, on en parlait un peu hier, sur les réseaux sociaux, où vous revenez sur les grands joueurs professionnels qui sont passés par le club, donc Cédric Yamberé, Christophe Dugarry. Est-ce que vous avez des liens encore avec ces joueurs, ou est-ce que vous en servez pour faire un peu rêver les jeunes dans votre image ou pas?
Oui, au niveau de notre foyer, donc c'est un jour vous venez dans notre foyer au niveau de l'Ormont, vous avez tous les portraits. Des joueurs qui sont passés dans la formation de l'Ormont ou la préformation, qui ont commencé très jeunes et qui sont devenus professionnels. Donc dans les foyers, on n'hésite pas, nous, vraiment à les mettre en valeur. Parce que quand on reçoit des parents ou des nouvelles familles avec des nouveaux enfants, on leur dit, voilà, tel joueur est passé par là. Donc c'est toujours valorisant. Mais nous, on les met en valeur. Après, moi, ça fait que 8 ans que je suis dans la région, puisque je viens de Normandie. J'ai pas eu personnellement de contact, mais bon, j'ai eu de bons contacts avec Lamine Sané, qui est venu chez nous pendant un an. Et là, qui a pris maintenant son envol tout seul en tant qu'entraîneur. Après, on a eu Ousni Rachid, qui a eu aussi une carrière très intéressante professionnelle, qui est revenu au club. Donc il y a 34 ans, mais c'est des joueurs qui en plus ont gardé cette racine. Et on est très sollicités couramment, tous les ans, avec des anciens joueurs qui reviennent vers nous et qui veulent revenir dans leur club formateur. Donc c'est révélateur quand même.
Mais est-ce que vous sauriez l'expliquer qu'il y a un lien quand même assez fort du coup avec ces joueurs pour qu'ils puissent revenir comme ça des années après à l'Ormont?
C'est l'identité du club, je pense. J'ai rarement vu, moi j'ai fait quelques clubs en Normandie, j'ai rarement vu un club comme l'Ormont avec une identité aussi forte. Voilà. Vous voyez, moi j'étais pas spécialement voué à venir à l'Ormont. Bon, je travaille à l'Ormont et on m'a demandé de venir il y a 7-8 ans. Mais maintenant, je ne pourrais pas quitter l'Ormont. Je pense que je vais aller au bout de ma carrière encore 2 ou 3 ans. Mais j'aurais du mal à quitter l'Ormont pour aller dans un autre club. Parce que c'est un club qui reste attachant. Il y a toujours des choses. Il se passe toujours des choses à l'Ormont. Mais je ne sais pas, il y a cette culture. Et beaucoup le disent. Hein. On a fait venir des joueurs depuis 2-3 ans qui étaient réticents pour venir à l'Ormont. Et qui sont à l'Ormont. Et comme il dit, je ne vois pas comment je partirais de l'Ormont maintenant. Donc il y a vraiment des liens très forts.
Oui, les joueurs restent. C'est super important dans le développement du club.
On le voit que le football fait partie de la ville de l'Ormont. Voilà.
Et pour finir, enfin, après, si vous avez encore un mot à dire, dimanche, il y avait la fin de l'Euro de football féminin, ça me fait une petite accroche. Est-ce que vous développez ces sections aussi dans le club?
Tout à fait. Donc, on l'avait développé pendant 3 ans. Et malheureusement, suite à des départs d'éducateurs qui géraient le football féminin, les jeunes filles ont décidé d'arrêter ou d'aller voir ailleurs. Et nous, là, on a travaillé depuis un an pour recréer une section féminine. Donc là, on va réussir à recréer une section féminine U17, U19, ben U16, U18, pardon, avec une vingtaine de filles. Et puis là, on travaille sur une équipe aussi foot à 5, foot à 8, sur des U10, U13. Donc là, pour nous, c'est notre volonté. L'Ormont ne peut pas rester sans une équipe féminine. On doit développer ce football féminin. Où c'est difficile, hein, on le voit dans tous les clubs, c'est difficile de développer du football féminin parce qu'il faut aussi des structures sportives et nous on est quand même très limité en structure et qui dit structure dit éducateur et dit coût financier, mais c'est une priorité pour le club de relancer la section féminine.
Et est-ce que vous ressentez un élan, parce qu'on entend souvent ce terme, Surtout en 2019, on avait accueilli la Coupe du Monde en France, donc on parlait beaucoup d'élan. Là, encore, je ne sais pas si vous avez vu quelques images, mais les stades, ils étaient complètement remplis pour l'Euro Suisse.
Oui, oui.
Est-ce que vous ressentez cet élan, vous, dans le club, qu'il y a autour du...
Après, au football féminin, je pense qu'on a un manque. On a un manque d'élan. Bon, on a les mamans qui sont là, qui suivent leurs filles sur le football féminin. Moi, je viens régulièrement. Moi, je venais régulièrement. Donc là, cette année, si c'est reparti, je viens régulièrement. Mais on sent, ça manque encore d'enthousiasme au niveau du football féminin. Malheureusement, je pense qu'il faudrait... Bon, là, on a vu que les Girondins vont remonter. Il faudrait comme... Les Girondins, il nous faudrait une équipe au plus haut niveau national pour redorer cette image féminine. Parce qu'au niveau amateur, c'est très difficile. Oui. Très difficile à gérer déjà. Il faut trouver les bons éducateurs. Donc là, ça nous a mis du temps. Mais là, on a vraiment un gros staff. Parce qu'il faut du monde. Mais il faut aussi des mamans dans le staff. Parce que ça reste des féminines. Donc c'est très complexe à mettre en place. Hein.
Très bien. Mais je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter sur un sujet qu'on n'aurait pas évoqué. Peut-être une actualité qui pourrait arriver dans ces prochains jours, je ne sais pas.
Bah écoutez, on attend ce retour de la Fédé dans les prochains jours. Espérons que ce sera positif pour le bien du club, pour le bien du football. Est-ce que nous, on a toujours dit haut et fort qu'il n'y avait aucune volonté de tricherie? Alors bon, ce n'est pas possible. De toute façon, je suis là pour ça, pour contrôler un petit peu tout à ce niveau-là. Donc on espère avoir une réponse positive et démontrer que nos valeurs sont fortes à Lormont, parce qu'on a des valeurs et par cette affaire-là, nous on démontre que nos valeurs sont là, sont fortes et on les respecte et c'est les mêmes valeurs que le football.
Bien sûr, mais on l'espère aussi, parce que c'est beaucoup d'investissement pour les joueurs et le club.
Tout à fait.
Une montée en Régional 1, donc... Je repasse la parole à Joël.
Oui, merci Romain. Belle interview. Juste, Patrice, si je pouvais... Je m'étais noté, mais ça a été évoqué. Alors, c'est vrai que quand je... nous, on a plein d'affinités. Je sais que le maire de Lormont a été gardien de but en football. Donc, il y a, c'est vraiment la passion. Juste un petit clin d'œil sur les Girondins de Bordeaux. Vous avez évoqué les féminines. Après, on le rappelle, à Lormont, bien, beaucoup de joueurs ont été formés dans le club formateur et sont passés par les Girondins, même si les Girondins n'ont plus l'aura qu'ils avaient... il y a quelques années, mais là on revoit Christophe Dugarry, vous avez cité, parce qu'il y avait toute une fratrie des frères Sané, Lamine Diatta, c'est vrai qu'Ambéré, enfant de ce nom, je ne savais pas qu'il était passé aussi.
Oui, oui, oui.
Et tant d'autres, votre vision, parce que là vous êtes plus que passionné, alors la descente d'un club comme Bordeaux, je présume que même en Normandie,
vous devez voir un petit peu,
et puis pour un club comme Lormont, de plus avoir le club entre guillemets phare qui faisait rêver, parce que moi je lis plus certains réseaux sociaux, il n'y a plus cet impact, cette aura, mais vous, votre regard, et puis le foot en général, parce que malheureusement, il y a eu d'autres situations en Strasbourg et d'autres qui sont remontées. Donc votre regard, vous, en tant que directeur sportif d'un club comme Lormont, par rapport aux Girondins de Bordeaux?
Déjà, oui, une grosse déception, parce que j'ai été muté de Normandie à Bordeaux, mais j'ai choisi Bordeaux pour la Ligue 1 par rapport aux Girondins de Bordeaux, parce que je suis un passionné.
Il y a 5-6 ans, effectivement.
J'étais un passionné de football, donc une déception terrible, même si je ne suis pas propre de la Gironde, mais une déception terrible de voir où ils sont actuellement. Mais c'est vrai que nous, on a besoin d'un grand club, et je le souhaite de tout cœur que Bordeaux remonte au plus haut niveau et le plus rapidement possible, parce qu'on avait comme ce lien d'avoir cette image au-dessus de nous et de prôner ça au niveau des enfants en disant, voilà, vous avez les Girondins qui peuvent venir à tout moment venir vous voir sur des séances, peut-être vous propulser sur la formation des Girondins. Donc ça restait une référence pour nous. Là, on voit qu'on est quelque part orphelin des Girondins, même si je sais qu'ils font du bon travail au niveau des jeunes. Mais je souhaite sincèrement, pour la région, qu'on retrouve les Girondins au plus haut niveau. Déjà pour nous, club amateur, parce qu'on a besoin de ce relais et d'un club au plus haut niveau pour nos jeunes, pour inciter nos jeunes à travailler correctement et pourquoi pas leur ouvrir à cette porte qui leur fait tant rêver d'accéder au plus haut niveau professionnel et si possible par le biais des Girondins.
Patrice, merci beaucoup. Et merci bravo à Romain d'avoir mené cet entretien. Il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais là, on est sur le format journal, donc merci beaucoup. Je présume que vous êtes sur les réseaux sociaux, site internet. Voilà, si on veut un petit peu plus d'infos, puis on vous souhaite... On est superstitieux, souvent dans le milieu du sport, mais on vous souhaite plein de belles choses.
Ah, c'est gentil, merci.
Voilà,
à vous.
Je ne sais pas si vous croisez les
doigts. Oui, on va croiser les doigts.
Vous donnez le fameux mot de Cambon. En tout cas, merci,
c'est gentil.
Pour ces quelques minutes. Et encore merci à Romain qui a organisé ce rendez-vous et a mené cet entretien. Allez, juste avant qu'on se quitte, on va refaire un petit clin d'œil à Lormont avec la pause musicale. Juste deux ou trois infos avant de se quitter en musique. Alors, je rappelais, en ce moment, on est sur une belle période estivale et beaucoup de villes à l'échelle de la métropole et de la rive droite en particulier sont dans le dispositif 433. Donc, c'est difficile de donner, bien sûr, tous les rendez-vous, mais là rapprochez-vous de la municipalité, des clubs sportifs, par exemple à Bassins, c'est un exemple parmi les villes du GPV, du grand projet de ville Rive Droite. Et bien par exemple ce mardi 29 à l'espace Michel Serre, vous aurez des animations proposées par des éducateurs bien sûr diplômés et amoureux de leur métier, de leur passion de transmettre, et ça sera un petit peu ambiance pour ne pas dire beaucoup cardio training cet après-midi à Bassins. Il y aura également un tournoi de foot à 5 et d'autres associations sont présentes. Là, je fais un petit clin d'œil à l'association Faut que ça bouge. On se croise régulièrement quand on est sur Bassins, qui vont proposer dès 18h30, toujours ce mardi, des initiations et hip-hop. Il y aura également la ludothèque au fil du jeu qui sera présente avec des installations de jeux en bois. Tout cela en accès libre et gratuit. Et là, c'est qu'un exemple, parce qu'il y a, c'est tellement important toutes les activités menées dans ce cadre-là, 43 et pas que. Là, pour Bassins, c'est autour du quartier de l'Avenir et de l'espace Michel Serre en particulier. Voilà, parmi les autres événements, vous avez également l'été métropolitain qui propose, en lien avec les villes de la métropole, ça tombe sous le sens, des spectacles toujours dans des lieux pas forcément atypiques, mais où le patrimoine est mis en valeur. Ce sont des lieux qui accueillent pas toujours des événements, mais dans ce cadre-là, c'est toujours avec plaisir. Et par exemple, un battle de compliments, si ça existe, et ce sera à la vétinaire, j'espère avoir bien prononcé, ne pas avoir écorché le nom, à 19h30 à Bouliac. Vous aurez ces prochains jours également les estivales de la ludothèque au fil du jeu, voilà, j'en parlais, sur Bassins, mais comme c'est intercommunal ces actions, eh bien cette ludothèque vous donne rendez-vous ce vendredi, parc du rectorat, cette fois à Florac, de 16h à 18h30, avec des animations gratuites sans inscription. On fait un petit coucou à nouveau à toute l'équipe organisatrice du Festilali, les membres du Centre social et culturel, les jardins d'Acazoul, parce que comme tous les centres sociaux, voilà, financièrement, il y a moins d'aide, c'est moins évident, mais ils sont toujours là tout l'été pour des sorties familles, accompagner les habitants dans des projets. Et le Festilali, c'est une belle vitrine qu'ils organisent chaque été. Alors, ils ont réduit un petit peu de 5-6 soirées à 3, mais comme ils nous expliquaient ici il y a quelques jours, derrière ces micros, ils sont toujours là et c'est moins de les soutenir, parce que voilà, troisième soirée ce vendredi autour des arts de rue, et là beaucoup de succès, voilà, c'est super bien organisé, toujours des spectacles en couleur, et la gratuité contribue également à ce beau partage. La nuit des étoiles, c'est ce vendredi 1er août à Côté Science, c'est l'antenne de Cap Science, donc Côté Science à Florac. Alors là, on a reçu des organisateurs pas plus tard qu'hier, donc là, à l'instar de ce que je disais au début, si vous revenez sur notre site internet, si vous reprenez l'émission, vous aurez tout le détail de cette nuit des étoiles à Florac, mais via les réseaux sociaux, site internet, vous aurez toutes les infos. Également, c'est un accès libre et gratuit, plein d'animations sont prévues. Voilà, pour certains des ateliers, bien sûr, il y aura certainement un petit peu d'attente, parce qu'il y a une raison de jauge pour la qualité d'accueil, mais vous aurez accès à toutes les animations entre 19h et minuit ce vendredi, et il y aura également des appareils, je ne sais pas comment qualifier, voilà, c'est je ne sais plus le nom, j'allais dire cétoscope, le mauvais lapsus, voilà, mais il y aura de quoi voir les étoiles et d'en profiter avec des professionnels qui pourront vous initier, vulgariser certaines choses. Vendredi 1er août, toujours, vous aurez à Ambarès et la Grave, voilà, c'est la piscine qui également organise une belle initiative, la piscine municipale du nom de cet immense champion Alain Berger. Bernard, car vous aurez de la musique diffusée. Et selon les couloirs que vous allez emprunter ce vendredi pour un ciné-piscine, eh bien vous entendrez certaines musiques. Par exemple, à la ligne numéro 1, eh bien ce sera La Légende du Bout du Monde, un classique de l'animation des films Disney. Donc ça également, c'est histoire eh bien, de passer un bon moment et d'égayer un petit peu ces rendez-vous. Et ma dernière info, et on va en rester là, ce sera pour rappeler qu'à Créon, eh bien, l'association La Rurale, c'est une association musicale, mais elle contribue à largement la vie locale et elle s'associe à l'événement estival de Créon, la piste sous les étoiles. Et depuis samedi dernier jusqu'au 23 août, chaque samedi, vous aurez plein de belles animations autour de tables gauloises. Ça, j'adore quand je cite le communiqué, et de concerts vibrants. Et là, ce samedi 2 août, l'équipe a concocté un programme autour des musiques afro-caribéennes avec Seiba. Voilà quelques infos sur cette partie agenda. On ne peut pas toujours être exhaustif parce qu'il y a un timing à remplir, mais on essaie de suivre en lien avec notre ligne éditoriale tout ce qui se passe, notamment sur la rive droite de Bordeaux et pas que. Voilà, on n'est pas du tout sectaire. Allez, on va refermer les pages de ce journal en ce mardi 29 juillet. Merci à nous, Romain, à la fois pour la présentation et réalisation des brèves interviews. Grand merci à vous, Patrice Thébault, directeur sportif du club de football de Lormont, l'US Lormont. Demain, eh bien, on va continuer à parler astronomie. Je vous ai le petit clin d'œil avec la nuit des étoiles. On aura Michel Favret qui viendra de Sa-Dordogne. Chaque fois, je dis Natal, mais non, il ne vient pas, même s'il est résident. Donc, chaque fois, je me reprends. Un petit coucou à Michel. Ce sera sa 124e chronique astro. Donc, si vous voulez avoir des infos sur l'actualité des étoiles, des astres, des planètes, eh bien, ce sera le cas sur la chronique. Et il sera entouré, comme chaque année, autour de la nuit des étoiles, avec Corinne Yaya, les présidentes de AG33, Astronomie Gironde 33, et Serge Gratadour, trésorier de l'association astronomique Vega de la Lyre, en rappelant bien que sur la rive droite, même si l'observatoire de Florac est fermé, celui de Vert eh bien, peut vous accueillir. Et ils nous en parleront tous les deux, en plus de la chronique de Michel, de tous les événements organisés à l'occasion de ces nuits des étoiles. C'est au pluriel de ce week-end et tout le long de l'année. Allez, on se quitte en musique avec Clara Daly, je les ai en préambule. Voilà, elle sera en concert le dimanche 7 septembre dans le cadre de ce bel événement qu'est le festival Ouvre la Voix, où tout est gratuit sur la partie artistique, j'entends. Et là, pour Lormont, le rendez-vous sera à 10h15, venez un petit peu plus tôt, autour de la station bateau en berge de Garonne, donc un cadre idyllique. Voilà, c'est à Lormont, c'est Clara Daly, le 7 septembre prochain, 10h15, je ne sais plus si j'ai reprécisé l'heure, et on va écouter un extrait de son dernier album, Danser dans les ombres, avant son concert Lormonté du 7 septembre prochain. Voilà, je cherche. Jusqu'à l'heure.